CJSO 101.7, La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour mesdames, messieurs. Il y a une semaine, jour pour jour, éclatait un incendie à l'école secondaire Bernard Gariépy, y occasionnant de lourds dommages. Plusieurs personnes se sont mobilisées, brillamment mobilisées, pour la sécurité de nos enfants. Puis elles continuent d'œuvrer de façon à leur permettre de reprendre rapidement la classe en présentiel. On a réuni en studio ce midi pour revenir sur cet incendie-là, puis clarifier ses suites. Le directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy, Roger Lamanque, le directeur de l'ESBG, Patrick Lamotte, le directeur adjoint du centre de services scolaires de Sorel-Tracy, Jonathan Charbonneau, le directeur du service des ressources matérielles, Ralph Beaulieu, et l'enseignante J.C. Reignendo. On revient, on discute avec eux après la pause.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
Sur le rythme.
Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca.
CJSO 101.7 Express Pub.
Tu as des problèmes de drogue, d'alcool ou de jeux pathologiques? Ou peut-être tu connais quelqu'un qui en a? N'hésite pas à nous contacter 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et ce, 365 jours par année. Une équipe est là pour t'orienter dans tes démarches. Maison La Margelle, 450-746-2788.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Vers 10h30, le mardi 14 janvier, un incendie éclate à l'école secondaire Bernard Gariépy. On est loin de se douter quand l'appel entre la caserne du service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy, qui sera à ce point majeur qu'il faudra des heures et des heures pour le maîtriser. J'ai réuni en studio ce midi pour revenir sur cet incendie qui, heureusement, n'a fait aucun blessé et clarifier ses suites. Le directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy, Roger Lamanque. Bonjour, Roger.
Bonjour.
Le directeur de l'ISBG, Patrick Lamotte. Salut, Patrick.
Bonjour.
Le directeur adjoint du centre de services scolaires de Sorel-Tracy, Jonathan Charbonneau. Bonjour, Jonathan.
Bonjour.
Toi, c'est une surprise, c'est que ton supérieur immédiat, Christian Lacourse, tiens, on lui envoie nos salutations, un petit virus aujourd'hui. Là.
Effectivement, ça fait partie de la vie.
Oui. Il y a des choses qui nous tombent dessus comme ça, virus, incendie, on s'y attend pas. Le directeur du service des ressources matérielles, Ralph Beaulieu. Bonjour, Ralph.
Bonjour.
Et on a aussi l'enseignante Jessie Riendo qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Roger Lamanque, quand entre mardi matin dernier vers 10h30 via la centrale, l'appel feu édifice public 2800 boulevard des Érables, est-ce qu'on sait un peu de quelle nature est cet incendie ou est-ce qu'on ne le découvre que sur place?
Honnêtement, quand on reçoit l'appel comme ça de la centrale de répartition, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est exactement. Oui, on savait que c'était un début d'incendie. Et quand on n'est pas rendu sur les lieux, on ne peut pas réaliser l'ampleur de l'incident. Souvent, ça pourrait arriver qu'on reçoive les informations de la centrale comme quoi qui nous mentionne flamme et fumée apparente. À partir de là, ben nous, on a déjà une idée de l'intervention qu'on va avoir.
Mais là, tout ce que vous avez, c'est feu, édifice public,
exactement.
2800 Boulevard des Érables. Là, vous regardez 2800 Boulevard des Érables. Ah, tabarouette, ça a polyvalente.
Exactement.
Okay. Là, vous devez avoir quelques frissons. Je reviens à toi, Roger, dans une seconde. Je me tourne pour une seconde vers Patrick Lamotte, directeur de l'école. Est-ce que c'est un détecteur de fumée qui déclenche l'alarme ou est-ce qu'elle est déclenchée manuellement mardi matin dernier?
On a déclenché l'alarme manuellement dans le bâtiment.
Qui l'a fait,
c'est-tu? Des deux employés de l'école, évidemment, parce qu'on devait déclencher des stations manuelles à distance. Donc, on a fait ça rapidement, là, des collègues de l'école qui ont enclenché l'alarme rapidement.
Est-ce qu'il y a de la fumée? Il y a une odeur de fumée? Est-ce que c'est subtil, Patrick, ou c'est rapidement très, très évident qu'il y a le feu dans l'entretoit, dans le secteur des gymnases?
Bien, en fait, c'est quand même subtil parce que là, à ce moment-là, quand on déclenche, c'est odeur de fumée dans le bâtiment. Parce qu'on l'a nommé tantôt, on va en reparler, là, les flammes étaient dans l'entretoit de la bâtisse. Donc, à l'intérieur de l'école, ce qu'on a, c'est vraiment une présence, une odeur de fumée. Puis avec la réaction rapide, on n'a pas pris de chance, on a enclenché le système incendie.
Mais cette odeur de fumée, ça peut être pas grand-chose. Ça peut être une feuille de papier dans une poubelle, ça peut être très petit.
Oui, ça peut être très petit, ça peut être beaucoup de choses, mais la procédure est toujours la même.
Les élèves, ils sortent immédiatement suspectés ce début d'incendie. Ils sortent quand, dans quel ordre, comment?
Bien, en fait, l'évacuation incendie est coordonnée par des coordonnateurs de plateau, donc les gens qui sont sur les étages. On a des responsables qui, à ce moment-là, quand on déclenche l'alarme générale, autant sur le système de communication interne, intercom, que l'alarme qui résonne dans l'école, les gens suivent la procédure puis doivent évacuer.
Je vais revenir sur l'évacuation puis sur la direction que prennent les élèves, parce que tout le monde, là, je lisais bien des commentaires sur Facebook et puis le bouche-oreille, tout le monde a trouvé que ça s'était déroulé vraiment là, rondement. Je reviens à Roger Lamangue, directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy. Votre équipe, ton équipe, Roger, n'a pas une longue distance à parcourir. Il y a des camions en caserne, pas loin, boulevard de Tracy?
Boulevard de Tracy, oui, tout à fait. On a deux casernes sur le territoire, une dans le secteur Sorel et une dans le secteur de Tracy.
Alors, quand les premiers pompiers arrivent, il y a de la fumée qui s'échappe de l'entretoit en arrière, d'un coin de l'entretoit. Est-ce qu'il y a des flammes visibles ou pas au départ?
Tout à fait. Quand on est arrivé, honnêtement, oui, il y avait déjà un peu de flammes sur le côté gauche du bâtiment et on voyait que le feu se propageait rapidement parce que le vent soufflait et l'incendie prenait de l'ampleur à partir de là. Donc, à ce moment-là, nous, on déclenche notre protocole d'intervention, donc on monte en alarme. Souvent, je vous parle de ça, M. Rochon, oui. Première alarme, deuxième alarme, troisième alarme. On s'est rendu jusqu'en alarme générale et par la suite, on a demandé l'entraide. Donc, la ville de Contrecoeur était là avec des pompiers ainsi qu'une échelle aérienne sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à être la façade du bâtiment, avec la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et la ville de Saint-Ours, donc avec des véhicules autopompes et des pompiers pour travailler avec nous.
Une cinquantaine de pompiers sur place et en
oui,
caserne.
Oui, tout à fait.
OK. Bon, moi, je suis arrivé pour CJSO dans le premier quart d'heure, mettons. On m'aurait dit que cet incendie-là allait prendre les proportions qu'il a prises. Je ne l'aurais pas cru. C'est à ce point traître un incendie qui prend naissance dans un entretoit? C'est les pires incendies, ça, Roger?
C'est des incendies qui sont durs à aller chercher, surtout que le bâtiment y était en rénovation. Donc, les revêtements qui servent de séparation au feu, qui donnent une résistance au feu au bâtiment, ils ne sont pas tous là. Donc, à partir de là, on savait qu'il y avait environ entre 3 pieds et demi et 4 pieds entre le bâtiment, entre l'ancien toit et le toit qui était en rénovation. Donc, à partir de là, c'est d'aller le chercher. Le mot, c'est d'aller le chercher, tout simplement, de pouvoir aller l'atteindre pour l'éteindre.
L'origine, faut une seconde en parler, est-ce qu'elle est à 100% confirmée maintenant? Parce que vous faites une enquête quand il y a un incendie comme ça?
Écoutez, quand les techniciens enquêteurs se sont présentés sur les lieux, OK, du service de protection et d'intervention d'urgence, se sont présentés ces lieux et ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose là, que c'était un événement causé par des travaux. On ne l'avait pas au début. Avec l'enquête, on a su que c'était des travaux de soudure qui avaient occasionné l'incendie.
Mais le ou la travailleuse, là, à l'origine de ça, il doit être mal ou elle doit être mal en tabarouette. Là. C'est un bête accident. Là. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle s'est dénoncée? C'est peut-être pas le bon verbe, mais est-ce qu'elle a dit « c'est moi, là, je m'excuse,
je pourrais
c'est
pas
moi ».
Non,
vous.
J'aimerais bien ça vous répondre, mais moi, ouais. Bon, être la personne qui aurait accidentellement mis le feu, j'aimerais moins
Des étincelles en Soudan, est-ce que c'est...
Écoutez, je ne peux même pas vous dire si c'est des étincelles ou de la flamme en contact direct, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, à notre arrivée, ça brûlait déjà.
Bon, je reviens au feu qui se répand, qu'on a de la misère à stopper. La centrale, à ta demande, tu le disais, là, sonne... Une alarme après l'autre, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la générale, sans compter les pompiers que tu as nommés des municipalités voisines qui s'amènent en renfort.
Qui ont fait un excellent travail, eux autres aussi, en passant.
Vous en avez vraiment, mais vraiment plein les bras, Roger, ce mardi-là?
Bien, effectivement. On était tous présents. Donc, à partir de là, on a des protocoles d'intervention très, très, très... rigoureux.
Ah, ouais.
Donc, à partir de là, un a son travail. J'avais M. Groslot qui était là sur le dénombrement. J'en avais un qui faisait communication avec la centrale. Parce que partout où ce que nos pompiers vont, on a un système de dénombrement qui nous dit où est-ce qu'ils sont.
Ça, c'est petit, votre petit tableau.
La fameuse
là,
valise, le petit tableau qu'on a l'air de déplacer des pions. Là,
ouais.
C'est
okay.
Notre façon de dénombrer et de savoir où est-ce que nos équipes de pompiers sont dans un bâtiment.
Parce que quand tu es pompier, c'est un métier risqué, là. C'est un métier risqué. Vous essayez de contrôler les risques, là,
donc
de cette manière que tu
risques,
identifies. Là.
Mais oui, effectivement, c'est un métier qui est dangereux, mais c'est un métier que les gens, les pompiers, vont prendre toutes les responsabilités pour s'assurer qu'ils ne vont pas mettre leur vie en danger. Mais oui, effectivement, vous avez raison, c'est un métier qui est quand même dangereux.
Le feu est déclaré maîtrisé en soirée seulement. Il faut dire que votre critère pour dire c'est maîtrisé, là, vos critères sont très, très élevés.
Là. Non, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de feu résiduel. Il
mm-hmm.
faut s'assurer que le feu est éteint en totalité.
OK. Alors donc, ça, il a fallu attendre quelle heure à peu près, là,
feu maîtrisé? Dans la soirée, je ne me rappelle pas l'heure exacte, M. Rochon. Là, on parle de 8 heures, 7h30, 8 heures le soir, là, avant qu'on ait donné là, ce qu'on appelle communément un 10-10.
C'est ça. Alors, c'est l'un des gros feux des dernières années, est-ce qu'on peut dire ça?
Bien, on en a régulièrement, des bons incendies, mais celui-là, c'en était un qui va rester là, dans notre mémoire longtemps, parce que c'est un feu où est-ce que les intempéries jouaient contre nous, faisait pas chaud, faisait froid, et les pompiers devaient travailler à partir de l'échelle aérienne, de la plateforme aérienne, mais aussi sur le toit. Et là, le toit s'étant affaibli, bien là, il fallait faire attention. Il a fallu qu'on aille faire des tranchées pour couper le feu, pour s'assurer qu'il n'était pas pour continuer dans le bâtiment.
Je me retourne vers Patrick Lamotte, le directeur de l'ISBG. Je notais tantôt le commentaire unanime que l'évacuation s'est bien déroulée. C'est que vous vous êtes gouverné, comme Roger, en fonction d'un plan bien établi. Il n'y a pas eu d'improvisation, là.
Non, puis il n'y a pas de place à l'improvisation. En fait, on ne peut pas jouer avec la vie des humains, là. Puis c'est le constat actuel. Le résumé de la situation, c'est si ça s'est bien passé, c'est parce qu'on était bien préparé. Puis oui, il y a des dommages matériaux, donc il y a des dégâts. Mais en même temps, la priorité dans tout ça, c'était qu'il n'y ait pas de blessés, puis il n'y ait pas de décès. Puis ça pour ça, c'est mission accomplie grâce à l'équipe.
Les élèves sont logés pour les uns à... Aaron Shepherd, je pense aux élèves du centre Bernard Carrier-Py, il y en a quelques-uns qui ont pris cette direction-là, mais la majorité, c'est au cégep de Sorel-Tracy. Hein?
Oui, exactement.
Ça aussi, c'était au plan?
Oui, ça fait partie de notre plan. C'est notre bâtiment secondaire en cas d'évacuation. On préfère l'été, là, mais notre bâtiment secondaire en cas d'évacuation est pour l'hiver.
Jessie Riendeau, vous enseignez à Bernard Carrier-Py. Parlez-moi donc de votre 14 janvier à vous, des émotions là, que cet incendie vous a fait vivre. Vous, vous étiez aux premières loges, vous étiez dans le,
ouais,
dans le secteur là,
ouais, dans le bloc
au-dessus
qu'on appelle
duquel l'incendie a pris naissance.
Plus, ben, au même étage, mais il y avait quand même un certain espace avec l'entretoit des gymnases. Nous, on commençait notre deuxième période, ça venait de sonner, les élèves se dirigeaient en classe. Et là, on a eu l'alerte d'incendie. Et là, le mot d'ordre, ça a été « On évacue, vous laissez vos choses là », mais on pratique à chaque début d'année. Donc, les élèves avaient déjà eu une répétition générale. Puis, on a sorti tout de suite à l'extérieur, se pousser un peu plus loin du bâtiment. Donc, les élèves ont vraiment suivi les consignes. Puis, une fois à l'extérieur, ils ont vu un peu comme nous-mêmes, les profs, que « Oh, c'était vrai, là, il y avait de la fumée sur le toit. » On l'a tous constaté en même temps.
Mais… Qu'est-ce que vous avez vécu intérieurement? Y a-t-il eu du stress? Y a-t-il une inquiétude?
Pas sur le coup.
Non, hein?
Ben, non, parce qu'on évacue. Moi, dans ma tête, je me disais, bon, il fait froid. Faut que je m'assure que mon groupe reste ensemble, qu'on va se coller un peu, parce que j'en ai en T-shirt. J'avais la chance d'avoir mon manteau sur ma chaise dans ma classe. Donc, prendre le manteau, me dire, au moins, mes plus petits qui n'ont pas de rien là, de chaud sur le corps, on va s'assurer de les réchauffer comme on peut. C'est sûr que quand on a constaté la fumée, j'ai dit oh, « on rentrera pas en dedans dans 5 minutes. » C'est pas une fausse alerte ou c'est pas un feu de papier.
Parce
ou quoi
que ça
ce
vous
soit.
A traversé l'esprit que ça puisse être une fausse alerte.
Totalement.
Ou un petit feu insignifiant. Là.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais oh, là, c'était pas ça partout.
Non, on l'avait déjà vécu en 2011. J'étais déjà enseignante à l'école secondaire Bernard-Hiéripi à ce moment-là. L'hiver, puis il faisait encore plus froid. Donc, quand on a vu la fumée, on était beaucoup de collègues entre nous, on se regardait et on se disait, d'après moi, on s'en va au cégep, mais il fallait attendre, bien entendu. Là, c'est pas d'initiative qu'on a, nous, les enseignants, il faut attendre le hockey là, des gens qui sont en charge.
Le danger des évacuations, vous me corrigerez, c'est que ça se met à courir puis qu'il y a des bousculades.
Pour l'avoir
ça
vécu,
pas,
pour non.
Ça s'est pas passé.
Non, quand on constate que c'est vrai ou que soit qu'il y a l'odeur de la fumée ou qu'on le voit, je vais vous le dire, c'est la deuxième fois, les élèves sont très conscients, sont très responsables, puis ils viennent se regrouper à l'enseignant. Ils ont zéro le goût de partir voir leurs amis. C'est la nature humaine. Pas que j'étais leur mère, mais j'étais comme la maman caneton, l'espace de ce moment-là, du groupe avec lequel j'étais.
Oui. L'école a été évacuée assez rapidement quand même, ça... Ça n'a pas pris longtemps.
Moi, j'ai trouvé plus rapidement quand on fait les exercices. Et heureusement, là.
Honnêtement, j'aimerais renchérir là-dessus.
Ben, vas-y, Roger.
Je peux vous dire là, que les gens des services scolaires ont fait un travail exceptionnel pour l'évacuation. Ça a été fait dans les règles de l'art. Ils ont pris les enfants en charge. Ils se sont en allés dans les bâtiments où est-ce qu'ils devaient aller. Ils ont fait un excellent travail. Je vous le dis, excellent travail. Je tiens à les féliciter parce que c'est pas évident d'évacuer près de 1000 enfants et de les tenir et de les garder tous regroupés. Vraiment, là, un travail exceptionnel là, qui a été fait.
Ouais.
Puis c'est là qu'on voit que c'est payant, les pratiques d'évacuation qu'on fait avec les gens de la prévention, de la gestion et de l'analyse du risque au service incendie. C'est là qu'on voit que c'est payant.
Il faut être certain qu'il n'en reste pas un ou une caché en quelque part. Comment ça marche? Vous appelez les présences? Comment ça fonctionne, Jessie?
M. Patrick va l'expliquer, mais il y a des gens qui font la tournée.
Vous me faites rire avec vos monsieur prénom, madame prénom. Ça, c'est ça,
ah, mais c'est comme à l'école. Il faut être poli.
Je sais. Bien, monsieur Patrick.
C'est bon, merci, M. Rochon.
Monsieur Sylvain.
En fait, l'objectif du protocole, c'est que chacun est responsable de quelqu'un. Donc, il n'y a personne de laissé au hasard. On parlait de dénombrement, s'assurer qu'il n'y en a pas un qui reste. Nous, on a un protocole d'identification. Donc, les enseignants, quand ils évacuent à l'arrière du bâtiment, ils évacuent avec un carton, donc un carton rouge ou un carton vert. Le dénombrement doit se faire rapidement. Puis on a des gens sur place qui font le tour de ces employés-là qui sont en train de faire le dénombrement. Mais c'est certain que la structure, c'est vraiment un peu... Je regardais le parallèle à les pompiers parce que j'ai vu l'intervention avec une structure qui est très, très hiérarchique, avec une structure de commandement, de gouvernance qui ne peut pas être laissée au hasard. On ne peut pas avoir 10 personnes sur les lignes, on ne peut pas avoir 10 personnes qui interviennent. Il faut que ça soit centré avec une seule ou en tout cas une équipe réduite.
OK, on va s'arrêter, madame, messieurs, le temps de publicité. De l'autre côté, vous allez entendre des gens que vous n'avez pas ce midi encore entendus, je pense à messieurs Charbonneau et Beaulieu. À tout de suite.
La bonne nouvelle économique.
Une présentation de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
Richardson International Québec annonce qu'elle a complété des investissements d'1,3 million de dollars pour moderniser ses installations de Sorel-Tracy afin de limiter le dégagement de poussière organique liée aux opérations de chargement des navires. L'ajout de nouveaux outils que l'entreprise dit à la fine pointe de la technologie permet de faciliter les opérations en plus de réduire considérablement le dégagement de poussière fugitive. Elle affirme qu'une réduction globale de plus de 60 % des émissions de poussière a été constatée. En 2024, environ un bateau sur trois chargé à partir du terminal de l'entreprise à Sorel-Tracy contenait du soya et du maïs issus de production locale, confirmant ainsi, fait-elle valoir, le rôle économique de premier plan que joue Richardson dans la région.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
On sait pas si t'es au courant, mais chez Paillet, il y a de l'électricité dans l'air. Fait que si t'es à la recherche d'un véhicule électrique, on va t'aider à te brancher. On va aussi t'aider à profiter au maximum des subventions gouvernementales. Après ça, ça va diminuer en un éclair. Ta facture d'hydro te fait peur? Inquiète-toi pas, ça fera pas de flamèche, puis les économies vont être électrisantes. Paillet, le concessionnaire électrique numéro 1 au Canada. Tant qu'à y être, faudrait aussi plugger notre slogan. OK, OK, Paillet, Paillet.
La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors, on revient une semaine, jour pour jour, après qu'il se soit produit sur l'incendie à l'école secondaire Bernard Gariépy. Avec moi, le directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy, Roger Lamanque, le directeur de l'ISBG, Patrick Lamotte, le directeur adjoint du centre de services scolaires de Sorel-Tracy, Jonathan Charbonneau, le directeur du service des ressources matérielles, Ralph Beaulieu, et l'enseignante Jessie Riendeau. Monsieur Beaulieu, la particularité de cet immeuble, c'est qu'un second toit est venu, je ne sais pas quelle année précisément, mais je dirais dans les années 80, recouvrir celui d'origine, n'est-ce pas?
Exactement, vous êtes bien informé. Le toit de l'édifice original, c'est 1970. Oui. En 2008, il y a eu des travaux de toiture importants, puis c'est là que la conception, dans le fond, si on veut, là, de la toiture a changé ou a évolué. Il y a eu la construction de l'entretoit qu'on a présentement et des nouveaux bassins de toiture par la suite.
Alors, c'est donc entre ce second toit et le premier que l'incendie a pris naissance?
Selon nos informations.
Le toit d'origine, le premier toit, là, est-ce qu'il était en béton? Parce que c'est comme un bunker, ça, cet immeuble-là. Alors, le premier toit,
Les toitures, ils doivent être en matériel élastomère, là, bien entendu, pour être capable de répondre aux conditions extérieures, donc le chaud et le froid. Ils doivent avoir une certaine flexibilité. Donc, il peut arriver qu'il va y avoir un agrégat là, qui va être déposé sur le dessus pour essayer de protéger les membranes des rayons UV, entre autres. Mais non, c'est pas fait en béton.
C'est pas du béton?
Non.
OK, OK. Roger, t'as réalisé ça, que c'était pas du béton?
Bien, on savait qu'il y avait comme un béton, un béton léger qui était dans la partie du bas.
Ah, OK.
Mais la partie du haut, c'était nullement ça.
Non. Ouais. Alors, pas cette membrane de béton, mais ce béton mince du toit d'origine, est-ce qu'il a participé à sauver les meubles? Pas parfaitement, pas entièrement, mais en bonne partie. Qu'est-ce que vous
Je vous dirais qu'assurément, il a joué un rôle. Est-ce que ça a été un genre de filet de sécurité là, pour les infiltrations d'eau là, suite à tous les milliers de litres d'eau qui ont dû être injectés, on va se le dire. Là,
est-ce qu'on a une idée des litres d'eau qui ont...
J'ai pas les quantités d'eau qui ont été...
Mais c'est énorme.
Mais il y a énormément d'eau. Là. Le canon va débiter énormément de gallons d'eau. Et on avait aussi contre-cœur de l'autre bord qui faisait de l'extinction. Donc, il y a eu beaucoup d'eau. Puis on le voyait dans les vidéos que nous, on a reçues dans la soirée. L'eau qui s'écoulait dans l'ancienne partie, tellement qu'il y avait de l'eau dans la nouvelle partie, là, dans la partie des gymnases.
Bon, justement, le feu a pris naissance dans l'entretoit au-dessus des gymnases, s'est propagé à, Roger nous le disait, un assez large, assez grand périmètre de l'entretoit ensuite. Ce périmètre-là, il correspond, Ralph Beaulieu, à quoi à l'intérieur? À plus grand que les gymnases?
Vous parlez, dans le fond, là, des dommages indirects? oui. occasionnée par l'incendie.
Oui.
Bon, assurément, là, au niveau des gymnases et de l'espace sportif, là, pour ceux qui sont un peu plus connaissants du bâtiment, là, c'est là vraiment qu'on a eu des effets importants, là, des dommages liés à l'eau.
Ça, ça correspond à l'endroit où le feu a pris naissance, là, dans
oui,
le trottoir.
Oui, exactement. Mmh. Mais le feu a été majoritairement là, circonscrit au niveau des bassins de toiture qui sont du côté de la piscine, si on veut.
Oui.
Mais assurément, l'eau a migré à travers la toiture et l'entretoit. Donc, le plus important, c'était au niveau des gymnases. Par la suite, lorsqu'on s'en va vers CBG, oui. assurément, là, on a, comme M. Lamanque l'a nommé, là, on voyait dans l'eau. Les vidéos l'eau. Puis au sol, même, je vous dirais, là, il y avait une couverture là, de 4 à 6 pouces à certains endroits d'eau. Donc, l'eau ruisselait des plafonds. Et on avait une présence aussi là, d'eau au sol.
Alors, les dommages à l'intérieur, ce sont surtout des dommages causés par l'eau et la fumée?
C'est juste, là, présentement, c'est dur de vous donner vraiment le fin détail parce qu'on a des experts qui sont sur place, des experts après sinistre qui sont en train de passer au peigne fin l'école, justement, pour évaluer l'ensemble des dommages, déterminer la cause et l'origine. C'est important. Les dommages sont importants.
Mais on n'est pas précisément fixé encore là, sur ce qu'on devra reconstruire à l'extérieur et à l'intérieur. On n'est pas fixé encore.
On a une bonne idée. On a ouais. des confirmations de divers professionnels. Entre autres, une des bonnes nouvelles que nous avons, c'est que la structure du bâtiment n'est pas atteinte.
Ah bon? OK. Mais les planchers des gymnases, là, ça, c'est fini, ça?
Absolument. Absolument. Ça, on se doit penser à une reconstruction complète. Des planchers. Les planchers, bien entendu, c'est des planchers.
Les avez-vous vus, les gymnases, depuis?
Oui, on les a vus. Puis on a vu aussi là, les travaux là, de retrait là, des planchers sont en cours.
OK. Monsieur Charbonneau, n'hésitez pas à entrer dans la conversation. L'école était comble de malheur, en train de se refaire une beauté, puis à grands frais, à part ça, là, 22 millions là, approximativement. Est-ce qu'une partie des travaux effectués à grands frais, à refaire le parement extérieur, s'envole en fumée ou pas?
Je laisserai M. Beaulieu répondre à cette question.
Selon nos premiers avis, ce ne serait pas le cas. Nos équipes de professionnels qui sont mandatées pour les plans et devis et aussi faire la supervision du chantier sont présentement sur les lieux aujourd'hui à faire une tournée là, avec l'entrepreneur général pour évaluer justement, à savoir si l'intégrité des travaux là, qui ont été faits jusqu'à présent a été mise en péril, si on veut.
Vous avez fait connaître le plan de relocalisation des élèves qui, pour la vaste majorité, vont prendre la direction de l'ESFL. Est-ce que c'est parce qu'aucun local du vaste immeuble de l'ESBG n'était habitable?
Bien, en fait, un bâtiment, point de vue sécurité, c'est une entité intègre. Là. Donc, on peut pas utiliser une partie de SBG, surtout dans la situation actuelle. Je vous dirais, là, quand l'incendie s'est déclaré, assez rapidement, dans les heures qui ont suivi, on a déjà commencé à regarder divers scénarios. On a toujours gardé l'espoir, en tout cas pendant quelques jours, on a gardé l'espoir de revenir rapidement dans ESBG. On n'avait pas fermé la porte à des scénarios hypothétiques d'un retour à plus long terme. Donc, on a planché assez rapidement sur des solutions. Pendant que l'équipe était, l'équipe de BG était dans le cégep avec les enfants à gérer la situation.
Mais c'était pas envisageable de dire, bon, tel local, bon, tiens, on va l'utiliser.
En fait, l'enjeu, c'est qu'il y a besoin d'une certaine intégrité aussi là, de l'école, de l'ensemble des élèves. On n'aurait pas pu dire on utilise une partie du bâtiment pour une ouais. partie des élèves, puis commencer à répartir les autres élèves un peu partout là, dans nos différents bâtiments. Ça n'aurait pas été très viable comme solution.
Bon, ça, c'est le directeur adjoint du Centre de services scolaires de Sorel-Tracy, M. Charbonneau, qu'on vient d'entendre. Ralph Beaulieu, directeur des ressources matérielles, vous avez quelque chose à ajouter là, sur ce thème-là? Là.
En complément là, de ce qui a été nommé par M. Charbonneau, en premier lieu, on a sécurisé les lieux. Donc, on s'est assuré que le foyer d'incendie était complètement
circonscrit.
Et voilà. Par la suite, c'est important, le bâtiment est abîmé. Donc, il y a d'autres risques qui sont induits par l'incendie, par l'eau, par les plafonds qui peuvent céder. Il y a différents risques qui sont présents. Donc, dans un deuxième lieu, on a travaillé à sécuriser l'environnement. Parce qu'il faut se le dire, avant d'entrer des employés ou avant d'entrer des équipes après sinistre, On pense à eux aussi là, dans ça, à leur sécurité. Donc ça, ça a été réalisé, je vous dirais, depuis 2 jours, là, on est en confiance. Par contre, les systèmes protection incendie, alarme incendie, système d'intrusion, présentement, le niveau de fiabilité de ces systèmes-là, il n'y a pas personne qui peut mettre sa main au feu pour dire qu'ils sont fonctionnels.
Qui est fonctionnel à 100%, évidemment, à cause de l'eau.
Exactement.
Là, les tests devront être faits.
Exactement. Donc, on doit procéder à la vérification, la réhabilitation, puis retester et faire recertifier ces systèmes-là. Donc, juste ça, on parle déjà de plusieurs semaines. La deuxième étape, ça a été nommé un peu tantôt par M. Charbonneau. Là, on est à préserver l'intégrité du bâtiment. Tous les milliers de litres d'eau qui ont été injectés ont présentement un effet sur les matériaux, puis le gypse, le bois, tout ce qui est composé organique. Donc là, ce qu'on travaille à faire, c'est de retirer le plus possible l'humidité de ces matériaux-là, voire à complètement les arracher, pour s'assurer qu'on n'ait pas de présence de moisissure dans un futur prochain. Là, c'est l'opération qui est en cours avec l'opération de nos évaluateurs.
Ouf, mais ça va coûter une fortune, tout ça.
C'est dur à évaluer pour le moment. C'est sûr qu'il y a des assureurs qui sont dans le portrait.
Ouais.
Ils essaient d'évaluer le plus rapidement possible la valeur de ces coûts de reconstruction-là. Mais tant que les différents experts qui ont été mobilisés n'auront pas terminé leur travail, produit leur rapport et colligé dans le rapport de l'expert en sinistre, le dit montant, là, on peut présumer, mais ça va voir le jour dans quelques jours, je vous dirais.
Puis là, les assureurs se parlent. L'assurance, les assureurs du centre de services scolaires de Sorel-Tracy ou de l'école secondaire Bernard-Gariépy et les assureurs de la firme de construction, là, qui... c'est quoi, c'est Construction Sorel?
Construction Sorel, oui, et le maître d'œuvre,
du
chantier. Assurément, il y a des sous-traitants qui travaillent pour Construction Sorel. Oui, les assureurs, si on veut, de part et d'autre, là, sont mobilisés. Dans le dossier. Comme je le mets tantôt, là, les différents experts, la plupart du temps, sont mandatés par les assureurs. Donc, il y a des procédures qui suivent leur cours présentement.
Ça peut être long, ça, ou vous observez que ça se déroule rondement quand même? Là,
ça vous voyez mon sourire, là?
Ouais.
Ça, c'est une
question. Ça veut dire que ça va être long?
Assurément, là, on se doit de faire un constat de la situation, on se doit de bien le faire. Puis par la suite, ben, le plan de reconstruction, qui est responsable de quoi, assurément, c'est là qu'il va avoir un certain là, délai là, qui va être induit avant de procéder à la reconstruction.
M. Charbonneau.
C'est ça que M. Beaulieu essaie de dire. Là, il est un peu tôt dans le processus là, pour voir toutes les discussions entre assureurs, où ça va aller, puis tout ça. On est vraiment dans l'étape des bilans, le constat des dommages, les hypothèses de travaux à faire. Là, on est vraiment à ce niveau-là.
Le centre Bernard-Gariépy, il est dans un état tout aussi problématique que l'école secondaire Bernard-Gariépy, ou a été moins touché?
Le centre Bernard-Gariépy, là, a presque rien eu. Tout ce qu'on a eu, c'est une contamination, si on veut, par les fumées là, de l'extérieur qui ont entré dans le bâtiment par la prise d'air. Il faut dire que c'est deux bâtiments qui ont des systèmes de ventilation distincts. Donc, ça a quand même aidé.
Ça a pollué.
Parce que si on avait recirculé l'air qui était présent dans ESBG, là, on serait à un tout autre niveau.
OK. On s'interrompt à nouveau pour des publicités, puis on revient après au plan de relocalisation, ce qui est bien important.
Salut, c'est Marie-Lou. Vous voulez une autre bonne raison de faire le saut vers l'électrique avec Chevrolet? Ben, je vous en donne 3. 1. Jusqu'au 31 janvier, il y a encore 4 000 de rabais gouvernementaux. 2. Des Equinox EV et des Blazer EV, on en a en stock et ils sont prêts à être livrés. 3. Plus vous attendez, plus vous risquez de le regretter. Alors, 1, 2, 3, go! Passez chez vos concessionnaires Chevrolet pour en essayer un dès maintenant et profitez du plein rabais de 4 000 en vigueur jusqu'au 31 janvier. Détails et conditions à offrechevrolet.ca.
Offre d'emploi.
Tu as envie de relever de nouveaux défis? Le domaine des médias, de la publicité et de la promotion, ça te parle? Alors il y a un emploi qui t'attend. CJSO est à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en publicité. Fais parvenir ton CV à info@commercial.cjso.ca. Voilà l'occasion de mettre à contribution tes talents sur les ondes de CJSO, la radio qui t'accompagne dans ton quotidien depuis bientôt 80 ans.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Il y a une semaine, jour pour jour, un incendie éclatait à l'école secondaire Bernard Gariépy, occasionnant de lourds dommages. Plusieurs personnes se sont alors mobilisées pour la sécurité de nos enfants, puis elles continuent depuis d'œuvrer de façon à leur permettre là, de reprendre rapidement la classe en présentiel. On a réuni en studio ce midi pour revenir sur cet incendie et clarifier ses suites le directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy, Roger Lamanque, le directeur de l'ESBG, Patrick Lamotte, le directeur adjoint du centre de services scolaires de Sorel-Tracy, Jonathan Charbonneau, le directeur du service des ressources matérielles, Ralph Beaulieu, et l'enseignante Jessie Riendeau. Relocalisation à l'ESFL. Par quel tour de magie ou effort surhumain de logistique rendez-vous ça physiquement possible? Vous êtes ingénieur, M. Beaulieu?
Oui.
Bon, est-ce que le génie de cette réorganisation physique des lieux vous revient ou...
Je n'ai aucun mérite.
Aucun mérite. Bon, il y a quelqu'un qui a levé la main, peut-être parce qu'il estime avoir des mérites, M. Charbonneau.
Non, c'est une question d'estimer avoir des mérites. En fait, comme je disais tantôt, dès l'après-midi du mardi, il y a des gens... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'incendie a éclaté, tout le monde a voulu aider. Tout le monde a voulu mettre la main à la pâte. Tout le monde a voulu s'investir. Il y a plusieurs gestionnaires du centre de services scolaires qui ont une certaine expertise dans le fonctionnement des écoles, qui ont déjà commencé à plancher sur des scénarios. Donc, dès mardi, là, les premières étapes ont été faites. Donc, il y a un travail qui a été fait avec toute une équipe. On a rapidement vu que l'option qui existait si on devait relocaliser les élèves, parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, on croyait toujours à un scénario possible de court terme. Donc, on a vu que l'option possible dans la région était ESFL. C'est un établissement scolaire qui a déjà eu plus d'élèves qu'elle a présentement. Donc, on savait qu'elle avait une certaine capacité. Donc, le travail a commencé dès ce moment-là. Quand on a vu que c'était pas envisageable à court terme, avec Monsieur Patrick s'est joint aussi à l'équipe, Madame Audrey, qui est la directrice de SFL,
Madame Hills, Monsieur Lamotte.
Oui, effectivement. Des directions, des services à l'interne qui ont commencé à travailler puis à avoir la possibilité d'intégrer. On a vu que ça fonctionnait presque à 100%, dans le sens qu'on arrive presque à intégrer tout le monde. Il y a une partie de la clientèle qui sont les élèves en adaptation scolaire de SBG qui vont être relocalisés à Enfant Jésus. On avait aussi ce bâtiment-là de disponible qui pouvait servir au plan de relocalisation.
Pourquoi eux? Ça, c'est une question qui a été posée sur la page Facebook, je pense que c'est du centre de services scolaires. Pourquoi eux autres, ils vont ailleurs, ils sont pas avec leurs camarades de l'école qui sont habitués à croiser?
En fait, au niveau de l'organisation, là, si je peux me permettre de préciser, là, on a très peu de groupes qui sont fermés. Donc, les groupes en adaptation scolaire sont fermés. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on est capable de prendre leur horaire spécifiquement puis de les déplacer sans avoir d'impact sur toute l'organisation scolaire de l'école. Donc, ça, c'est la réponse administrative, ça. Il y a une réponse aussi au niveau de l'encadrement des élèves. On sait que du côté de Fernand Lefebvre, on va avoir à peu près 2000 élèves. Donc, on a des élèves en adaptation scolaire qui ont des besoins spécifiques, on se comprend. Puis, un environnement comme celui-là où il y aura beaucoup, beaucoup d'élèves avec un roulement puis une énergie, mais c'est sûr que les élèves d'adaptation scolaire, on voulait s'assurer de leur fournir un environnement qui répondrait plus efficacement à leurs besoins. Donc, toute l'équipe qui travaillaient à Bernard Gariépy auprès de l'adaptation scolaire seront relocalisés avec cette clientèle-là du côté d'Enfant Jésus.
Bon. Alors, comment ça va fonctionner à l'ESFL? Est-ce qu'on va faire cohabiter ensemble des classes? Est-ce qu'on va recréer comme on voyait ça quand on était jeune? Non, c'était même avant nous, ça, Roger, des classes à niveau multiple. Comment ça va fonctionner?
Bien, en fait, au niveau de l'organisation, c'est sûr que, puis je vais le nommer parce que M. Charbonneau l'a nommé, mais je vais le renommer. L'équipe de l'ESFL s'est vraiment déployée au complet avec des gens du centre de service. Nous, on arrive là, donc on sera les colocataires.
La visite
dans le bâtiment. au niveau des changements, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont, du côté de Fernand Lefebvre, dégagé des locaux spécifiquement pour pouvoir nous accueillir. Donc, les enseignants, les membres du personnel vont être dans un espace de l'école où on va nous-mêmes partager ces locaux-là. Donc, les enseignants, évidemment, qui étaient très choyés du côté de Bernard Garépy et de Fernand Lefebvre, avoir un seul local, bien là, il faut comprendre qu'il y aura plusieurs enseignants qui vont partager le même local de classe.
Il y a notamment le local de musique là, qu'on va subdiviser. Vous avez dit ça en conférence de presse ce matin. Là.
Au-delà du partage des locaux, on a aussi, on fait du côté de Fernand Lefebvre, réattribuer des locaux qui n'en étaient pas. Donc, évidemment, là, c'est 100% de la capacité des locaux de bâtiment qui vont être utilisés, plus un partage à l'intérieur des classes. Donc, tantôt, vous posiez la question sur l'horaire, sur les modifications. Tous les élèves vont avoir le même horaire dans l'école. On va avoir les mêmes pauses, les mêmes dîners. On va évidemment se coller à la structure de Fernand Lefebvre. Donc, le même horaire. On avait un horaire différent du côté de Bernard Garépy. On va fonctionner avec le même horaire. On arrive. Donc, on est de la visite, je l'ai dit. On arrive avec l'horaire de ESFL du 9h à 16h avec les mêmes périodes de transition.
Jonathan Charbonneau, vous aviez quelque chose à ajouter?
Ben, oui, en fait, comme M. Lamotte l'a expliqué, les enseignants de ESFL, avec l'espace qui était disponible jusqu'à maintenant, avaient la chance d'avoir chacun un peu leur local, mais ce n'est pas la norme de ce qu'on retrouve dans les écoles secondaires au Québec normalement. Donc là, il va y avoir un certain partage de local entre les enseignants. Ce qu'on retrouve plus fréquemment là, dans les autres écoles là, des centres de service. Ça nous permet là, justement de déménager deux écoles dans la même école, parce qu'il ne faut pas oublier au travers de tout ça que l'école SFL déménage aussi elle-même à l'intérieur de ses propres murs. Là.
Alors là, tout le monde sera à l'ESFL, les actuels de l'ESFL et ceux de Bernard Garépy, à l'exception des élèves dans l'adaptation scolaire de Bernard Garépy, seront tous réunis là le 30, hein, c'est ça?
Oui, en fait.
Le 30, parce qu'il y a une entrée progressive, ouais. Les 27 et 28.
Exactement.
Première, deuxième, secondaire de BG. Puis il y a des élèves de l'ESFL qui n'iront pas à l'école quelques jours pour permettre toute cette réorganisation-là.
Dès jeudi cette semaine, les élèves de SFL auront congé. Je pense que pour la plupart, ils ne se plaindront pas de la situation. Vendredi, c'était déjà une journée pédagogique. C'était déjà prévu. Donc, lundi de la semaine prochaine, il y a uniquement les élèves de secondaire 1 à SFL qui vont rentrer, et les élèves de secondaire 1 de BG à ESFL, et les élèves d'adaptation scolaire de BG qui vont rentrer à Enfant Jésus. Le lendemain, mardi, ça va être secondaire 2 de BG qui vont rentrer à ESFL. Mercredi, ça va être secondaire 3 de SFL qui vont revenir, ainsi qu'adaptation scolaire de SFL. Et jeudi, ça va être secondaire 4, secondaire 5 de SFL. Donc, à compter de jeudi de la semaine prochaine, l'ensemble de nos élèves du secondaire vont être à l'intérieur de nos établissements.
Je comprends. Le mobilier, est-ce qu'il y a des pupitres puis des chaises qui seront déplacées de Bernard Garépy à Fernand Lefebvre? Vous allez dire que je suis dans les détails, mais c'est dur à comprendre. Comment on fait pour ajouter, quoi, 900 élèves à Fernand Lefebvre? 900, 1000?
Ben 850.
Bon, 850, là, c'est du
monde. En fait,
là.
C'est sûr que déplacement là, logistique, je regardais M. Beaulieu, parce qu'effectivement, là, au-delà du sinistre puis l'après-sinistre, on a remettre en fonction un bâtiment à la hauteur de 2000 élèves. Donc, on donne l'intégration partielle ou progressive plutôt avec un plan, mais il faut quand même pas oublier que ça peut avoir l'air simple de dire je prends des élèves, je les envoie là, mais il y a toute une logistique derrière. C'est sûr que des fois, pour dans la population, ça peut avoir l'air simple, puis il peut dire ben, le délai il peut être long, mais c'est quand même un coût assez impressionnant d'être capable de réorganiser toute cette structure-là dans un aussi court délai avec plusieurs déménagements associés.
Alors, on va déménager du mobilier, en effet. Ralph Beaulieu?
Oui, exactement. Donc, on va faire appel à des équipes externes, mais je prends un moment pour souligner le travail de nos employés à l'entretien technique. Ils font partie aussi beaucoup là, de la situation, là, du fait que ça va bien, puis la préparation, comme ça a été nommé tantôt, là, du transfert des, du mobilier, entre autres. Il y a le réaménagement de certains casiers. Patrick, corrige-moi si je me trompe, mais il y a énormément de choses qui sont faites à l'interne avec l'équipe d'entretien technique, donc je tiens à les remercier.
On va aussi déménager des casiers de BG à Fernand-Lefebvre?
Pas pour le moment. Ça va partir du scénario, mais
Il y en a qui vont être deux par casier.
Oui.
OK. À partir de la semaine prochaine, là. Stationnement, je continue dans mes détails. Là. Stationnement, auto, autobus, est-ce qu'il a fallu aussi imaginer des solutions, Jonathan?
Oui, évidemment. J'en profite là, pour remercier nos transporteurs scolaires là, qui ont mis la main à la pâte là, pour trouver des solutions. Effectivement, les trajets d'autobus sont en cours de remodélisation, je dirais. Les parents vont recevoir les informations sous peu. L'ensemble des autobus scolaires du secondaire vont desservir maintenant ESFL et Enfant Jésus. L'ensemble du stationnement d'autobus va être utilisé pour ESFL. Il va y avoir quelques autobus aussi sur la rue Ramsey. Comme ça s'est déjà fait à une certaine époque, là, il y a un certain temps. Il va y avoir un débarcadère aussi à Enfant Jésus. Les équipes de la ville là, sont déjà dans le coup pour ce qui est du niveau du déneigement, des glaçages, là, etc. Là, ils ont prêté main forte pour l'occasion.
Cafétéria, ça va faire beaucoup de monde à nourrir, ça?
Effectivement, les scénarios sont prévus aussi pour nourrir l'ensemble des enfants. On n'oublie pas non plus les enfants qui sont enfants Jésus, oui, pour lesquels il y a un plan de match qui est prévu pour eux aussi.
En septembre prochain, il était prévu que l'on accueille dans nos deux écoles secondaires les élèves de première à cinquième secondaire en fonction des concentrations qu'ils auront choisies. Est-ce que c'est une perspective aussi ferme depuis l'incendie ou est-ce qu'on pourrait devoir surseoir à ça?
Bien, en fait, vous comprendrez que les porteurs du projet, les deux principaux, étaient M. Lamotte et Mme Mills. Vous comprendrez que dans les derniers jours, ils ont eu d'autres préoccupations. On en est conscient. C'est des questions qu'on va s'apprêter à analyser là, par la suite des choses. Je dirais que pour l'instant, on est vraiment concentré sur la relocalisation des élèves à ESFL.
Oui, puis est-ce que c'est même certain qu'en septembre prochain, l'ESBG va accueillir des élèves? Que tout va être fini, que tout...
C'est encore trop tôt pour le dire.
C'est ça, hein? L'épreuve de cet incendie, je vais terminer là-dessus, aura permis, je voulais pas qu'on se laisse sans aborder ça une minute, aura permis, il me semble, de mesurer, par ailleurs, l'attachement de la communauté pour cette école, puis aussi la solidarité dont on est capable en pareille circonstance. Est-ce que ça vous a ému? Je pense à Patrick, à Jessie en particulier...
Je vais y aller. Moi, j'ai été agréablement surprise. Parfois, quand on vient d'un petit milieu, d'une région où tout le monde se connaît, on tombe plus souvent dans le négatif que dans le positif, surtout sur les médias sociaux. Et là, j'ai été extrêmement agréablement surprise d'avoir l'appui, de voir en tout cas l'appui des parents, de voir l'appui de la communauté. C'est pas juste de recevoir des félicitations, c'est pas ça, plus que tout le monde s'inquiète pour le bien des élèves, mais aussi pour le bien de tous les gens de BG, que ce soit agent de bureau, que ce soit un enseignant, un professionnel ou même les directions. T'sais, on est une famille, on n'arrête pas de le dire. C'est un milieu de vie, hein, une école secondaire. Puis là, on l'a vraiment vu, mais on est aussi bien entouré par la communauté. Je pense que ça a réconforté beaucoup de gens. Membre de l'ESBG en tant que tel.
Il y a beaucoup de monde sur Facebook qui s'affiche avec une nouvelle photo de profil. Nous sommes l'ESBG. Patrick, comment tu vis ça?
Bien, en fait, je suis content en fait que vous le souligniez parce que c'est dans tout ça, cette épreuve-là, on dit dans les épreuves, on se rassemble, dans les épreuves, on s'unit, puis dans les épreuves, on persévère, on est résilient. On en a eu la démonstration, on l'a souligné tantôt, le cégep de Sorel-Tracy nous a accueillis à bras ouverts, ils ont fait un travail extraordinaire pour qu'on se sente chez nous, dans leur bâtiment. Ça a fait une grosse différence, la population qui a participé en... voulant ramasser des habits de neige pour les jeunes, les entreprises qui nous ont offert leur aide, c'est incalculable le nombre de soutiens qu'on a reçus. Puis, on l'a peu souligné, puis je voudrais juste prendre un petit 10 secondes pour le nommer, les élèves. Les élèves au cœur de tout ça, il y a un élève qui a passé dans les médias nationaux, on l'a bien entendu. Puis à partir du moment, le vrai baromètre, c'est les enfants. Le baromètre, quand l'élève est capable de prendre la parole, puis il dit « je me suis senti en sécurité, je me suis senti bien », puis j'ai confiance en la suite, c'est ça le baromètre. Le baromètre, c'est ça qui donne le pouls, à savoir si ce qu'on fait, on s'en va dans la bonne direction. Puis elle est là, la félicitation. La félicitation.
C'est un joli mot de la fin, ça, Monsieur Patrick.
Si vous me le permettez.
Allez-y, Monsieur Roger, allez-y.
10 secondes. Je tiens vraiment à féliciter et à remercier le travail des pompiers ainsi que des techniciens enquêteurs qui ont travaillé sur cette intervention-là. Mes collègues de la ville de Contrecœur, de Saint-Roch-de-Richelieu, ainsi que la ville de Saint-Ours, ils ont eu à combattre un incendie dans des conditions qui étaient difficiles par le froid et par la complexité d'atteindre l'incendie. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de féliciter.
Tu as bien fait. On se joint à toi. Jessie Riendo, Patrick Lamotte, Roger Lamangue, Jonathan Charbonneau, Ralph Beaulieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bravo encore pour la gestion de tout cela. Il y en a un qui est dans l'ombre ce midi, mais avec nous en studio, Joé Olivier, aux communications au Centre de services scolaires de Sorel-Tracy. Ce matin, écoute, tu as quasiment eu un hommage en conférence de presse de mes collègues journalistes et moi. Ben, je le refais ce midi. Bravo pour les coms pendant tout cet incident-là. Alors merci, et à vous à la maison, à la semaine prochaine pour une autre édition de La Tribune.